Patrick Amicot, vous avez une délégation, vous êtes adjoint à la fois au logement et à l'habitat indigne. Aujourd'hui a été votée une décision de 20 millions. Comment est-ce que vous réagissez ?
Bien, donc je suis plutôt adjoint à la lutte contre l'habitat indigne et bien sûr à tout ce qui relève de la politique du logement. Alors cette décision de 20 millions de budget concernant la lutte contre l'habitat indigne, elle a été prise pour marquer vraiment la priorité de cette grande cause municipale qui est la lutte contre l'habitat indigne et pour commencer à avoir des actions très concrètes le plus rapidement possible sur ces sujets qui sont des sujets qui touchent énormément de Marseillais où qu'ils soient en ville, hein, même si il a été fort justement rappelé par Mme Galli que ça touchait à la fois le centre-ville mais aussi les quartiers périphériques. Sachant que Marseille a ce triste privilège d'être la ville de France qui aujourd'hui concentre le plus de problèmes de ce côté-là, avec les fameux 40 000 logements indignes. Alors ces 20 millions, globalement, ils vont être affectés à deux choses. La première, pour la moitié d'entre eux, pour 10 millions, ce sont des travaux d'office dans des logements qui appartiennent à des propriétaires privés. Alors, ces travaux d'office, c'est des travaux de mise en sécurité, ce sont des travaux pour éviter d'avoir éventuellement à déloger des locataires. Et ces travaux ont pour vocation à être préfinancés d'abord par ces sommes-là, mais récupérés ensuite auprès des propriétaires bailleurs qui, eux, n'auront pas investi ces travaux qui étaient à leur charge.
Ce sera récupéré
par toutes les voies légales possibles. Et il faut quand même préciser aussi que l'ensemble de ces travaux et l'ensemble de ces relations avec les propriétaires bailleurs ne relève pas que de l'investissement de ces 10 millions, mais fait aussi la part belle à l'État et à la métropole, puisque des aides, notamment de l'État, existent au travers de l'ANA, et nous saurons mobiliser à côté de ça les moyens de l'État sur ces propriétaires privés.
Alors justement, Julien de Normandie, qui est venu cette fois à Marseille, n'est plus ministre, ça ne va pas vous gêner un petit peu ?
Bah écoutez, je crois que les principales dispositions du plan partenariat de l'aménagement ont déjà été votées, signées, se mettent en place. Les contacts que j'ai avec les services de l'État ne me laissent pas imaginer que celui-ci ne pourrait pas tenir ses engagements. Je pense qu'Emmanuel Wargon est très attaché à ces questions et qu'elle soutiendra avec la même volonté et la même efficacité que Julien de Normandie ce qu'on pourrait lui faire comme proposition et l'engagement de l'État que celui-ci a déjà commencé depuis 2 ans.
Combien de délogés vont-ils être touchés par ces travaux d'office ?
Alors ça, je ne saurais pas vous donner aujourd'hui un chiffre extrêmement précis. On a aujourd'hui plusieurs milliers de délogés qui ne sont pas tous, heureusement, dans des conditions de relogement précaires. Mais on a situé les chiffres de 2400 et même jusqu'à 3000 personnes qui ont été délogées. Ces chiffres ne sont pas faux, mais nous ne sommes pas dans aujourd'hui une population de 3000 personnes à reloger immédiatement. C'est quelques centaines, bien sûr, qui sont aujourd'hui encore dans des situations de relogement précaires par des biais des résidences hôtelières ou de logements tiroirs lorsque nous avons pu en mettre à disposition. D'autres ont été relogés chez les bailleurs sociaux qui ont été les premiers à offrir leur parc disponible pour assurer ces relogements. Et donc, aujourd'hui, la notion d'évacuation ou de relogement est vraiment liée à l'état réel du logement dans lequel la personne se trouve. Elle n'est pas systématique et ce n'est pas parce qu'il y a un arrêté de péril qu'il y a forcément un relogement. Donc il est difficile aujourd'hui de vous donner un chiffre sur le nombre de personnes qui seront touchées. Ce qu'on peut dire, c'est que nous travaillons beaucoup actuellement et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la deuxième part des 20 millions, donc les 10 millions restants, vont servir à travailler sur le parc public, le parc de la ville principalement, c'est aussi de pouvoir offrir des solutions de relogement qui fonctionnent, des logements tiroirs qui fonctionnent, à ces personnes qui risquent, dans le futur et actuellement, d'être délogées du fait des arrêtés de péril.
L'État et la métropole gèrent une société qui s'occupe du grand centre-ville, 1000 hectares, la SPLA-IN. Ouais. La mairie n'en a que 6%. Comment voyez-vous les relations avec Martine Vassal ? Est-ce qu'elle a dit pendant le Conseil vous a rassuré ?
Ce qu'elle a dit pendant le Conseil m'inquiète, plutôt. Puisque nous avons constaté lors des élections à la fois la métropole et le Conseil des territoires, le peu de cas que faisait Mme Vassal du vote de la majorité des Marseillais à la municipalité.
Vous voulez dire que vous n'avez pas eu de vice-présidence ?
Ce n'est pas simplement la question d'une vice-présidence, c'est la question de se soucier vraiment de ce qui se passait et de donner sinon des vice-présidences mais tout au moins des gages opérationnel à la ville d'un travail commun qui pouvait être très fructueux et qu'il faut arriver à co-construire à la fois avec la métropole et l'État, comme je l'ai dit. Du côté de l'État, je ne suis pas très inquiet aujourd'hui. Du côté de la métropole, oui, je suis nettement plus inquiet sur la véritable volonté de la métropole d'avoir un partenariat très fort, très construit, au niveau politique notamment, avec la ville de Marseille.
Monsieur Royer-Perrault s'est exprimé très violemment contre ses premières décisions. Il a dit que c'était de la communication.
Monsieur Royer-Perrault joue son rôle, hein, comme on appelle, on parlait d'effet d'estrade ou de grand discours. Je veux dire, tout ça ne doit pas non plus masquer la réalité, que si nous en sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 25 ans d'incurie derrière, que M. Royer-Perrault savait parfaitement ce qu'il votait lorsqu'il votait les délibérations de l'ancienne municipalité. On a vu la manière assez désastreuse dont s'est comportée l'ancienne municipalité lors de l'élection du maire et du premier conseil municipal, tout ce qui s'est passé autour. Donc, je pense que M. Royer-Perrault ne peut pas non plus donner de trop grandes leçons de cohérence et de position construite à la nouvelle majorité qui n'est là que depuis le 4 juillet, n'oublions pas.